Les images de CNN ce soir, je voulais vous les montrer. On a des combats, vous en parliez, Michel de la Garaille, très intenses en ce moment ici. On va voir la carte, on est dans l'est du pays, toujours dans le Donbass. Bakhmout, les Russes veulent à tout prix prendre Bakhmout. Résistance acharnée des Ukrainiens qu'a pu filmer donc une équipe de CNN. Les images sont très impressionnantes, on les décryptera juste après. Mais d'abord, donc ces images, c'est avec Anne-Solène Tavernier.
À Bakhmout, les combats sont incessants. Les forces ukrainiennes continuent de résister aux assauts russes. Ces images de la ligne de front ont été tournées par les soldats eux-mêmes. Chaque jour, ils défendent cette ville de l'est de l'Ukraine que leur ennemi tente de conquérir sans succès depuis l'été. Une équipe de journalistes de la chaîne CNN a pu rentrer dans Bakhmout. Les combats sont tout proches. La fumée des explosions obscurcit le ciel.
All right, well, you can hear the incoming rounds from Russian artillery fire are really intensive here.
Des affrontements si violents qu'ils contraignent les journalistes à s'éloigner rapidement. Pour se protéger, ils descendent dans l'un des bunkers souterrains de l'armée ukrainienne. C'est ici que les officiers planifient leur riposte, notamment grâce à ces ordinateurs et à leur connexion Internet. Quant aux drones, ils sont utilisés pour la collecte de renseignements.
You can see Russian soldiers, as we look at them live now, running for cover as Ukrainian artillery pounds their positions.
Une frappe venue du ciel, car au sol, les armes commencent à manquer.
Ulysse Gosset, pourquoi Bakhmout ?
Parce qu'il faut une victoire à l'armée russe et qu'effectivement, il y a des moyens considérables qui sont mis en œuvre pour y arriver. On a dit il y a quelque temps que c'était la milice Wagner qui était en première ligne.
Absolument.
Moi, ce qui me frappe dans ces images, c'est qu'on a à la fois un mélange de tranchées et puis de technologies ultramodernes. Vous imaginez, vous, ce bunker souterrain avec des ordinateurs qui permettent de suivre avec les drones les soldats russes pour mieux les frapper. Donc, c'est ça, d'ailleurs, la force des Ukrainiens, c'est qu'ils utilisent des moyens ultramodernes face à une armée russe qui, finalement, est un peu désemparée. Mais là, on voit que c'est devenu un enjeu presque prioritaire pour l'armée russe, c'est d'essayer de vaincre et de conquérir une ville pour venger, d'une certaine manière, la défaite de Kherson. Le problème, c'est que on voit des images qui sont relativement soft, mais en fait, la réalité, c'est que c'est Verdun partout et que les batailles qui se livrent autour de Kherson, puisque la bataille est autour de Kherson aussi, c'est dans les villages environnants, dont les Russes, d'ailleurs, en ont repris trois aujourd'hui.
Absolument.
C'est la dernière nouvelle du jour. Mais en fait, il y a des combats acharnés et des destructions terribles.
Regardez juste, ces images filmées au drone pour montrer à quel point on a des combats rapprochés entre Russes et Ukrainiens en ce moment. On est dans l'est de l'Ukraine. Ces soldats que vous voyez à droite de l'écran, on va les cercler pour bien comprendre. Ces soldats que vous voyez, ce sont des soldats russes qui ont repéré une position ukrainienne et qui s'approchent à pied. Vous avez plusieurs groupes de soldats russes qui vont s'approcher à pied de la position ukrainienne qui, en réalité, est un peu à gauche de notre écran. Alors là, à gauche, on avait les soldats ukrainiens et en rouge, vous avez les soldats russes. Voilà à quel point ils sont proches. Vous avez les soldats russes qui pensent avancer discrètement et le plus discrètement possible à pied. On en voit certains ramper, se mettre à couvert, etc. Sauf que toute la scène est filmée, qu'il y a ces drones et qu'à un moment, la scène dure plus de 5 minutes dans les images que l'on a eues, à un moment donné, les soldats ukrainiens à gauche en jaune sont prévenus de la présence des soldats russes et que le tir est engagé et que les Russes sont repoussés. Mais ça montre ce que vous disiez à l'instant, Ulysse Gosset. Là, on est quasiment sur du corps à corps. On est avec des combats extrêmement rapprochés.
Avec des moyens quand même très modernes de détection, de drones, etc. J'ai vu d'autres images sur Bakhmout qui nous font plutôt penser à Verdun ou même les soldats ukrainiens. Là, on a vu les soldats russes tout à l'heure qui pataugent dans la boue. On a vu la même chose pour les soldats ukrainiens qui sont dans des conditions terribles, avec aussi de l'eau et de la boue sur les bottes et qui vivent dans des conditions terribles. Donc la question est de savoir effectivement si les Russes vont parvenir à conquérir cette petite ville dont personne n'avait entendu parler avant la guerre, mais qui est devenue un nœud, symboliquement important. Alors la question aussi, c'est est-ce que les Ukrainiens Ukrainiens vont faire comme les Russes à Kherson? Est-ce qu'ils vont lâcher Bakhmout pour se repositionner ailleurs, ou bien est-ce qu'ils vont tenir le plus longtemps possible pour montrer que les Russes ne peuvent pas prendre cette ville?
La question, Elzavida, c'est une question qu'on a déjà posée pour Kherson, pour Mariupol à l'époque. Ce soir, ces combats intenses du côté de Bakhmout, c'est symbolique ou c'est stratégique?
Alors, c'est surtout symbolique pour les Russes puisque c'est le rare endroit où ils sont encore à l'offensive alors qu'ils sont passés en position défensive et que c'est très désavantageux, alors que les Ukrainiens, eux, ont plutôt la chance de bénéficier d'une dynamique de victoire les dernières semaines et qu'ils ont intérêt à justement pousser cette victoire au maximum avant que le sol ne se gèle et que les Russes puissent être à nouveau très très mobiles. Mais effectivement, à Bakhmout, ça fait 4 mois à peu près que cette bataille a lieu, en tout cas sous sa forme la plus statique, et tous les jours on entend que tel ou tel camp a pris quelques villages, mais personne, aucun des deux adversaires n'arrive à emporter une victoire décisive. Mais Bakhmout est intéressante pour les Russes aussi, parce qu'elle permettrait de progresser significativement dans la conquête du Donbass, ce que Vladimir Poutine voudrait comme but de guerre, et par ailleurs, dans ce Donbass, et notamment dans la ville de Donetsk, on a un gros problème récurrent pour la population, c'est de l'accès à de l'eau potable de qualité. Or, derrière Bakhmout, on a un réservoir que les Russes voudraient effectivement conquérir, ce qui permettrait de stabiliser la situation des habitants de Donetsk.
Jean-Marc Four, puis Michel Olagaray. Jean-Marc Four.
Alors, est-ce que c'est stratégique ou symbolique? Les deux. C'est stratégique parce qu'effectivement, comme vient de le dire Elsa Vidal, c'est quand même un carrefour. On est entre Sloviansk, Kramatorsk. Ça permet, si on conquiert Bakhmout, de solidifier cette maîtrise de l'est de l'Ukraine, du Donbass, les 15% du territoire ukrainien, peu ou prou. Donc c'est stratégique. Mais c'est symbolique, on le voit bien, parce que les moyens engagés sont disproportionnés par rapport à ce qu'est Bakhmout. Enfin, Bakhmout, c'est quoi? C'est 50 000 habitants, je parle avant la guerre, ou 60 000, quelque chose de ce genre-là. Donc, on est sur une petite ville. On parlait de Stalingrad tout à l'heure, on n'est pas sur Stalingrad, vous voyez, on n'est même pas sur Kherson. Enfin, on est sur... Allez, oui, une petite ville, un gros bourg. Donc, on voit bien que si on engage des moyens comme le font les Russes aujourd'hui, aussi importants, c'est qu'ils ont besoin, oui, aussi d'une victoire symbolique. Donc, stratégique et symbolique.
Michel Olagaray, face à ces images que l'on vient de voir, que ce soit les images de CNN que l'on revoit là, ou les images de combat très rapprochées, vous, comment vous les lisez, ces images-là? Vous êtes un peu plus habitué que nous à ces terrains-là et à ces images-là.
Alors, étant quand même de la Marine nationale, je suis moins habitué à ce type d'affrontement que ne le sont mes camarades d'armée de terre. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que vous avez là la réalité de la guerre. La guerre, ce ne sont pas des duels d'artillerie à 40 km de distance. La guerre, on n'est pas surpris. La guerre, c'est ça. Alors, ce n'est pas du corps à corps, c'est les baïonnettes et tout. Là, on voit bien qu'il y a de la technologie. Les Russes savent très bien qu'il y a des drones. D'abord, ils les repèrent, etc. Bon. Ensuite, je dirais que, stratégique, le stratégique, c'est un peu l'ensemble du front, ce sont le nucléaire, etc. Donc, moi, je laisserai le stratégique de côté. C'est tactique locale, mais en revanche, extraordinairement symbolique, comme vous l'avez dit. Très, très symbolique, puisque là, si les Russes ne parviennent pas à enfoncer ce front, c'est un affront supplémentaire, même s'il reste bloqué là, bloqué pendant longtemps. D'autant qu'en ce moment, c'est la boue, c'est à peu près la Rasputitsa, pas loin d'être la fin de la Rasputitsa. Et que là, les Ukrainiens, qui ont une espèce de dynamique, vont peut-être pouvoir mettre davantage en œuvre ce que nous avons vu, c'est-à-dire une organisation assez extraordinaire. Quand vous voyez un PC comme celui-là, des gens qui ont l'air très calmes, très sereins, qui sont en plein combat. Alors, ils doivent pas être quand même très, très proches de la ligne de front. Là, je me méfie un peu des approximations parce que vous l'installez pas comme ça, un PC, proche de la ligne de front qui bouge continuellement. Ensuite, il faut savoir que, bien sûr, ils portent cet effort et comme vous l'avez souligné, il y a 3 villages qui ont été pris au sud de Bakhmout. Mais les Russes ont tenté 2 fois d'abord d'attaquer dans le nord de Bakhmout. Ils ont été bloqués. Ils n'avancent pas dans le nord. Au contraire, ils ont été bloqués. Ils ont avancé directement sur Bakhmout. Ils sont allés jusque dans les faubourgs de Bakhmout. Ils ont été repoussés. Et c'est vrai que là, maintenant, ils donnent l'impression d'avancer, mais c'est quoi, 3, 4, 5 kilomètres? Quand vous voyez les chevauchées fantastiques qu'ont effectué les Ukrainiens dans le nord, en particulier à hauteur de Kharkiv vers l'est, ça n'a rien à voir. Mais en revanche, c'est symboliquement extraordinairement important. Et comme vous l'avez dit, si là, il y a une défaite, rien que s'ils ne franchissent pas, s'ils ne prennent pas Bakhmout, c'est déjà pas bon pour eux. Mais alors, s'ils se font repousser, là... Or, on surestime un peu, me semble-t-il, Wagner. On parle de Wagner, ils ne sont certainement pas tout seuls là-dedans, c'est l'armée russe. Parce que Wagner, au fond, c'est 20 à 30 000 personnes, au total. qui a eu beaucoup de blessés. Je ne suis pas sûr que les prisonniers qu'ils ont essayé d'enrôler soient d'une très grande qualité. Donc moi, je mettrais un grand bémol sur la qualité de Wagner. Mais je n'en sais pas davantage, mais je ne sens pas Wagner comme étant une force. Bien sûr, on agite Wagner parce que c'est une milice, parce que Prigogine, etc., c'est bon pour l'esprit. L'armée russe est derrière et elle est pas si faible que ça. Elle peut, par moment et par endroit, se réorganiser.
Et d'ailleurs, symboliquement important pour l'armée russe et pour le général Sourovikine, dont vous parliez tout à l'heure, parce que, bon, certes, il s'est retiré avec beaucoup de bravoure de Kherson.
Il risque sa tête actuellement.
Voilà. Et tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est effectivement lancer ces grandes vagues d'attaques de missiles quasiment quotidiennes pour frapper les infrastructures civiles. Mais la population va s'impatienter. Et du côté de Vladimir Poutine aussi, il faut aussi des résultats. Donc, effectivement, au moins une victoire.
Il a justifié le retrait de Kherson pour, en échange, promettre Bakhmout.
Ça, c'est nous qui le disons. Et surtout, à mon avis, les campagnes de missiles, ça n'est pas Souvorikine qui les dirige. Hein. C'est fait du centre de la Russie, de l'échelon central, parce qu'il faut vraiment mettre en l'air tous les avions qui partent de la mer Caspienne ou autre, parce qu'ils sont de la Biélorussie, peut-être éventuellement. Mais Souvorikine, il commande le théâtre lui-même et il a déjà bien assez de choses à faire. Le reste, la planification aussi organisée qu'elle paraît être de tous les centres d'infrastructures et de production et de distribution d'électricité, ça se fait au niveau central et au niveau centre de l'état-major russe, très certainement.